À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question, en fait, de Saint Jacques le Mineur, de son épître, qui est une épître qu'il faut vraiment avoir lue. C'est une émission spéciale que j'ai intitulée comme ça, il ne suffit pas vraiment d'écouter la parole, il faut vraiment la mettre en pratique, et c'est ce que expose à un moment donné Saint Jacques, et ça a fait tout un éclat. En particulier au XVIe siècle, avec Luther, les protestants et tout ça, mais je ne veux pas nécessairement traiter de ça, je voudrais aller au fond de sa pensée pour qu'on puisse réfléchir sur cette question qui est extrêmement importante. C'est ce qui explique d'ailleurs la vie des saints, c'est qu'ils ont mis en pratique ce qu'ils ont entendu de la bouche de notre Seigneur à travers celle évidemment des prêtres quand ils lisent l'Évangile, celle des enseignements qu'ils reçoivent à la maison, l'école, dans les églises, de la part du christianisme, de l'Église en général. Et voilà que il y a cette épître donc dite de Saint Jacques, c'est celui qu'on appelle souvent le frère du Seigneur, n'est-ce pas, c'est Saint Jacques le Mineur, et non pas Saint Jacques le Majeur, Saint Jacques le Majeur qui est le patron de Saint Jacques de Compostelle, si vous voulez, c'est là qu'on dit que son tombeau existe en Espagne, qui est le lieu de pèlerinage, l'un des, en tous les cas, des plus fameux de la Terre, Saint-Jacques de Compostelle, à ce point, d'ailleurs, que la revue L'Agora, que vous connaissez probablement, l'excellente revue L'Agora, c'est une revue d'idées, de débats, publiée ici au Québec, par Jacques Dufresne, et puis il avait fait un dossier pour Noël 1995, c'est paru en janvier 96, du moins c'était daté, les revues sont toujours datées d'un, deux mois à l'avance. Hein. Un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, et puis des tas d'articles extrêmement intéressants qu'il y avait dans cette revue, en principe profane, où on attache encore de l'importance à ce grand pèlerinage qui a marqué toute l'Europe. Hein. Et nos ancêtres qui viennent d'Europe, pour la plupart d'entre nous, ont certainement fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et à Montréal, nous avons une tour Saint-Jacques à l'Université du Québec, n'est-ce pas? C'est le restant de l'église Saint-Jacques qui a servi déjà de cathédrale à Montréal. Et il y a là, sur la rue Saint-Denis, près de Sainte-Catherine, cette grande tour Saint-Jacques, immense clocher qui a été conservée. Au sein de l'Université du Québec, je le signale en passant. Alors, on appelle l'épître de Saint-Jacques, cette épître... En fait, c'est pas nécessairement une épître dans le sens que c'est une lettre de renseignement, etc. C'est un sermon. Dans le bon sens du terme, là, c'est un sermon d'exhortation morale. Et on peut pas vraiment contester l'origine autrement que de l'attribuer à Saint-Jacques lui-même. C'est un recueil de brèves exhortations morales, mais dans le bon sens du terme encore. C'est très intelligent. C'est une épître, je trouve, on dirait qu'elle a été écrite en grande partie ce matin même. Elle est toujours moderne. Il n'y a pas nécessairement un ordre logique et rigoureux, et on voit bien que certaines parties remontent à l'époque du tout début du judéo-christianisme. On peut dire, même dans les années 35-40, c'est le début, le Christ serait mort en l'an 30. Alors, on peut dire 35-40, très très vieux texte. Mais certaines autres sections semblent avoir été ajoutées, pas très longtemps plus tard, parce que ça suppose que les lettres de Saint Paul aux Romains, puis Saint Paul aux Galates existaient déjà. Bon. De toute façon, on peut voir dans cette lettre qu'il y a une tension entre une façon de comprendre ce qu'on appelle le judéo-christien, c'est-à-dire notre foi du début, puis la grande église des convertis qui venaient d'un peu partout, qu'on appelle les gentils. C'est gentil de les appeler gentils, n'est-ce pas? Et il y a une tension qui, après quelques décennies, là, a amené la rupture d'avec le judaïsme, parce qu'on priait au début dans les synagogues. Et cette épître de Saint-Jacques est donc très intéressante, même du point de vue historique. Et Nous avons, ça peut nous enseigner que les tensions sont quelque chose de naturel. Ça a toujours existé. Il faut pas se plaindre aujourd'hui. On dit, ah, il y a beaucoup de tensions dans l'Église. Mais il y en avait dès le début. C'est normal. Il faut chercher toujours ensemble la vérité, quitte à se disputer légèrement, sans se disputer vraiment, là. Et ça peut dégénérer parfois de façon un peu pénible. Il faut faire attention. Il faut toujours avoir la charité dans son cœur, hein, quand on est chrétien puis qu'on n'est pas du même avis que d'autres. Il faut jamais reprendre les autres en les assommant, en leur disant des bêtises, en les méprisant. Non. Il faut souligner, de toute façon, surtout et avant tout, le caractère de cette prédication de Saint Jacques, qui est une prédication, comme on dit aujourd'hui, depuis le Concile, une prédication de caractère homilitique. C'est un sermon, un beau sermon, un vrai sermon, un des plus beaux de tous les temps. Puis c'est envoyé aux 12 tribus dispersées, les 12 tribus d'Israël. Les premiers mots disent clairement que c'est Jacques qui l'envoie. Il se qualifie de serviteur de Dieu, comme on faisait dans le judaïsme, et il ajoute « et du Seigneur Jésus-Christ ». C'est donc une union entre les deux grandes alliances. Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La tradition de l'Église d'Occident, notre Église, a toujours identifié Jacques, fils d'Alphée, à Jacques qui est appelé frère du Seigneur. Mais aujourd'hui, les exégètes catholiques eux-mêmes ne sont plus aussi certains de cette identification. Bon. En réalité, l'Évangile affirme que les fameux frères qu'on appelle comme ça de Jésus ne croyaient pas en lui, qu'ils ont même tenté d'arracher Jésus à sa mission pour le ramener dans sa famille. On voit ça dans l'Évangile de Marc au chapitre 3, verset 21. Mais qu'est-ce qu'il y en est? Je viens de dire frère de Jésus. Il y a encore des gens qui s'imaginent que la Sainte Vierge, bon, elle était vierge pour mettre Jésus au monde, mais qu'elle a cessé d'être vierge quand elle a mis justement ce Jacques au monde. C'est à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament qu'il est question des frères et des sœurs de Jésus. Je ne veux pas vous donner toutes les citations, mais il y en est question dans Matthieu, chapitre 12 vers la fin, chapitre 13 vers la fin encore, dans Saint Marc, chapitre 3, chapitre 6 au début, dans Saint Luc aussi, dans Saint Jean, dans les Actes, au début des Actes, chapitre 1, verset 14, puis même dans l'Épître aux Corinthiens, dans l'Épître aux Galates. Bon. Les critiques qu'on appelle rationalistes, qui sont souvent un peu fatigants, à mon avis, ont essayé de tirer parti de ces textes-là pour nier la virginité perpétuelle de Marie. Et leur interprétation, un peu facile, un peu sommaire, est combattue victorieusement, à mon avis, par une longue exégèse catholique qui est pleine de bon sens. Et je vous en donne les grandes lignes d'argumentation. Je m'excuse, je fais cette longue parenthèse avant d'arriver à notre sujet, mais je crois que c'est important, puisque Saint Jacques, auteur de cette épître, Saint Jacques le mineur, on l'appelle souvent le frère de Jésus. Quel est le sens général de l'expression « frère de Jésus » ? On ne doit pas prendre ce sens-là dans le sens strict, ce mot-là dans le sens strict. Marie n'a pas eu d'autre enfant que Jésus. Et c'est là un article de foi, d'ailleurs, qui a été défini en particulier par Paul IV en 1555. Vous direz, bon, moi je crois pas à ça, bon, ben, essayons donc de voir pourquoi il a dit ça. L'expression « frère de Jésus » peut très bien s'entendre au sens large. Je donne un exemple. J'étais au Cameroun en janvier 1971. J'étais là à Douala. Et nous devions prendre l'avion pour Montréal. Et la veille, au restaurant, le serveur, qui était très noir et très gentil, me dit, ah, vous allez à Montréal. J'ai des frères à Montréal. Ah, j'ai dit, vous avez des frères à Montréal, mais donnez-moi votre nom, puis leur nom, puis je leur téléphonerai, je leur dirai que vous les saluez, aimeriez-vous ça? Il dit, oui, j'aimerais beaucoup ça. Alors, il m'arrive avec un bout de papier sur lequel il y avait quatre noms, de gens qui avaient des noms de famille différents. Puis c'était pas le même nom de famille que lui. Mais je lui dis, ce sont vos frères, vous avez des pères différents. Ah, il dit oui, bien c'est-à-dire nous sommes du même village. Et pour lui, c'était ses frères puisqu'ils venaient du même village. 1971, au mois de janvier, à la fin de janvier, pour être plus précis. En hébreu ou en araméen, la langue que parlait Jésus, et que parle mon dépanneur, c'est étrange, hein? Oui, sur la rue Saint-Mathieu, dépanneurs, ils sont quatre à parler l'araméen. Eh bien, en hébreu ou en araméen, le mot employé pour désigner les frères proprement dit s'applique encore parfois aux demi-frères, aux neveux, aux cousins germains, aux cousins plus éloignés et même aux parents en général. Alors les gens dans un village se considèrent souvent comme parents, de toute façon, dans ces régions-là. Parce que les gens bougent pas beaucoup, restent dans les mêmes villages. De plus, ni l'hébreu ni l'araméen n'ont de termes spéciaux qui correspondent à cousin. Le mot cousin, ça, on dit frère à la place. Pour exprimer donc cette parenté, le mot frère s'impose. Il s'impose toujours. Surtout quand il s'agit d'un groupe de cousins d'origine différente. Mais si les cousins de Jésus ne pouvaient pas en araméen être appelés autrement que ses frères, il est tout naturel que cette formule toute faite soit passée dans le grec, la langue grecque du Nouveau Testament, puisqu'on la trouve déjà dans la Bible des Septante, hein, que vous connaissez. L'expression, donc, frère de Jésus doit s'entendre au sens large. Cessons de penser que ça s'applique au sens étroit, comme nous autres, un frère, une sœur, c'est un frère puis une sœur. Il y a ce problème-là. Mais il y a aussi, si on précise que dans le récit de l'Annonciation, vous savez, dans Saint-Luc, au début de Saint-Luc, on voit Marie comme ayant formé le projet là, de garder sa virginité plus tard dans la vie de famille de Nazareth. Il n'y a aucune allusion à un enfant autre que Jésus. Ils ont un fils, bon, ils s'égarent, ils vont chercher au temple, etc. C'est seulement dans la vie publique, passé l'âge de 30 ans, en somme, dans sa vie publique de Jésus, qu'apparaissent ses quatre frères, Jacques, dont je vais vous parler aujourd'hui, José, Simon et Jude. Mais nulle part ils ne sont appelés les fils de Marie, ni même les fils de Joseph. Quand on parle des fils de Marie, c'est la cousine de Marie. Parce que Marie, la Sainte Vierge, avait une cousine qui s'appelait Marie. Elle est mentionnée au pied de la croix. Hein? Et Jésus seul est nommé le fils de Marie. La Marie de la Sainte Vierge, là, celle qu'on connaît bien. Avec l'article, hein? Comme si on désignait un fils unique d'une veuve, le fils de Marie, pas un fils de Marie, mais le fils de Marie. Puis d'ailleurs, sur la croix, quand Jésus voit que ses derniers instants sont arrivés, il dit à Jean, qui n'est pas mentionné comme son frère, « Voilà ta mère. Pourquoi donnerait-il sa mère à un tout jeune homme qui a 20 ans, 22 ans, 21 ans. Pourquoi lui donnerait-il sa mère, la lui confierait-il, s'il a des frères? S'il a ses frères qui s'appellent Jacques, José, Simon et Jude? Me semble que ce serait normal. Ce serait absurde autrement. Trêve d'études et de discussions sur ça, je vous laisse là-dessus. On peut se demander si ce Saint Jacques, auteur de cette belle épître, qu'il faut lire, hein? Ah, c'est une des... Souvent, quand je m'occupe de prisonniers ou de gens qui cherchent un peu qu'est-ce que ça peut être que le Nouveau Testament, je leur dis souvent, lisez le livre de Job. Vous allez voir une histoire extraordinaire sur le problème de la souffrance. Puis, lisez le livre de l'épître de Jacques. On dirait qu'elle a été écrite ce matin, comme je vous disais tout à l'heure. Et vous allez probablement aimer ça. Il y a des beaux passages. Ensuite, évidemment, il faut lire l'Évangile, en particulier l'Évangile de Saint-Jean, c'est si beau, mais aussi les Évangiles plus simples. Jacques, donc, qu'on appelle frère du Seigneur, donc son cousin, plus ou moins éloigné, Il peut pas être, chose étrange, l'un des douze. Pourquoi? Parce que le livre des Actes des Apôtres semble faire une distinction entre les douze et Jacques, frère du Seigneur. C'est étrange. Lui aussi, il attend l'Esprit Saint, le paraclet promis, après l'ascension du Christ au ciel. Peut-être que Jacques s'est converti au moment de la résurrection, parce que le Christ lui est apparu. C'est une des plus belles apparitions. Peut-être peut-on se fier à ce que dit l'évangile apocryphe des Hébreux. Il y a un évangile apocryphe des Hébreux, c'est pas dans le Nouveau Testament, ça. À savoir que l'une des premières apparitions, sinon la première, a été faite à Jacques, frère du Seigneur. Du reste, saint Paul parle, lui aussi, de cette apparition dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Il la mentionne, lui. Et pour la communauté primitive, les premiers chrétiens, les premiers catholiques, si vous voulez, elle avait certainement une très grande importance. On sait combien profond est le lien du sang et combien dans le judaïsme la famille est une institution bien établie. Puis les membres de la famille de Jésus aimaient beaucoup Jésus, mais comme leurs frères, entre guillemets, là. Et ils devaient trouver exorbitante chez lui cette espèce de présomption avec laquelle, bon, sans avoir étudié, d'après eux, puis après 30 ans de vie cachée comme enfant de la famille, là, au sens général, il se mettait tout à coup à prêcher, hein, puis entraînait une foule après lui, avec le risque de susciter l'opposition des grands, puis de mettre en péril sa propre vie. Ils étaient inquiets, eux autres. La famille, en général, les cousins, ils étaient stupéfaits, ils étaient épouvantés, et Jacques devait l'être. Jésus pouvait dire à juste titre que les familiers, là, ceux de la maison, sont les ennemis des prophètes. Et ces paroles semblent le témoignage d'une expérience directe. Vous vous souvenez de cette parole? L'expérience de Jésus en tant qu'homme membre d'une famille, là, il dit « Un prophète n'est pas méprisé sinon dans sa patrie et dans sa maison. » Vous trouvez ça dans saint Matthieu, au chapitre 13, vers la fin. Pourtant, ce soit cet amour, leur amour, qui va les préparer à la conversion, puis l'évangile des Hébreux dit que la première apparition de Jésus ressuscité a été accordée à Jacques, frère du Seigneur. Il était chanceux. Peut-être pour ça qu'il a écrit cette belle lettre, cette belle épître. Il était nourri. Les apparitions aux apôtres ont lieu quand ils sont tous ensemble, on le sait, hein, enfermés au Cénacle. Je vous en ai parlé. Mais à Jacques, comme à Pierre, le Christ apparaît séparément. Ils sont choisis tous les deux. Jacques, c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup, sans doute. Un cousin qu'il aime. Puis Pierre, c'est celui sur lequel il construit son Église. C'est pour nous, catholiques, le premier pape. Hein? Et le Christ apparaît séparément. Au premier des apôtres, là, puis au premier des frères, disons, de ses frères, et Jacques lutte, lui. Il est dans une grande douleur d'avoir vu mourir le Seigneur. Il est même si troublé que pendant 3 jours, c'est dit, hein, depuis le moment où Jésus a été condamné, jusqu'au dimanche de Pâques, donc du jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi jusqu'à Pâques, il n'a pas pris un brin de nourriture. Il était plus capable de manger, tellement il était bouleversé. Et c'est la mort de Jésus, ou mieux, l'apparition du ressuscité qu'il convertit, et maintenant il se joint aux apôtres, puis il va devenir le chef des disciples de Jérusalem. Mais il va demeurer très juif. Hein. Il va aller toujours au temple, il observe scrupuleusement la loi, puis il est considéré comme le premier évêque de Jérusalem. Les Juifs de Jérusalem se déchaînent férocement contre l'Église, hein, comme on se déchaîne toujours contre une secte qui voudrait détruire le christianisme, ou eux, c'était une secte qui voulait détruire le judaïsme. C'est normal, faut pas leur en vouloir aux Juifs. Hein. Ils gardent au contraire pour Jacques. Oui, pour saint Jacques, ils gardent une vénération sincère parce qu'ils le voient au temple, qu'ils prient comme eux. Les écrivains du judaïsme, qui s'opposent au Christ, parlent de Jacques avec beaucoup d'admiration. Ces écrivains juifs, oui, ils l'admirent, Jacques. Il ne vivait, saint Jacques, que de prière. Il prenait ses repas tels que le voulait le judaïsme. Il devait manger toutes les choses cachères, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et jusqu'à sa mort, il restait attaché avec une fidélité scrupuleuse à la loi judaïque. Il a été pris finalement, puis jeté du haut du pinacle du temple par les zélotes. Vous savez, ce groupe de juifs qui voulait la libération d'Israël, chasser les Romains. Ces juifs qui avaient déclaré une haine mortelle à quiconque se ferait chrétien aussi, les zélotes. Alors on l'a achevé à coups de bâton. Puis il est mort à Jérusalem, où il était évêque, à la veille de la destruction du temple. Voilà le Saint-Jacques, ce frère du Seigneur, fidèle à la loi. C'est peut-être lui qui a voulu le concile de Jérusalem, hein? Il semble avoir voulu le premier concile. Il semble avoir voulu le présider, et ce n'est pas Pierre, mais Jacques qui prononce la dernière décision lors de ce concile. Il propose les points qui vont être observés par tous, la prohibition de la fornication. C'est l'unique point qui sera ensuite ratifié par toute l'Église à l'encontre des coutumes païennes, où on fornique, comme aujourd'hui on fornique n'importe comment. Dans un des derniers numéros du magazine Time, les articles sur la fornication sont tellement épouvantables, on arrive dans un monde effroyable, effroyable. Et le deuxième article dans ce concile, le premier concile, c'était la prohibition des viandes étouffées et du sang. Alors, c'est la façon de manger qu'ont les Juifs, n'est-ce pas? Et ils ne touchent pas au sang parce que c'est l'âme, je vous l'ai déjà dit souvent. Et la prohibition des idolotites. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, c'est l'interdiction de manger de la viande sacrifiée aux idoles. La viande qui avait été offerte aux idoles, les chrétiens ne devaient pas en manger. Et Jacques voudrait que jusqu'à un certain point, les chrétiens soient encore liés au judaïsme. Alors, je vous fais grâce du reste qui est extrêmement intéressant quand on lit tout ça. C'est passionnant. J'ai lu ça pendant des heures et des heures. Mais dans une analyse de l'épître de Jacques, on dit qu'aucun autre texte biblique n'a sans doute été aussi discuté, hein? Surtout depuis le XVIe siècle, mais même depuis le début de l'Église. Hein? C'est le problème de l'individualisme puis le sentiment qu'on doit avoir, sentiment communautaire, que l'on rappelle constamment dans l'Église et qu'on rappelle très fortement aujourd'hui. Le fil directeur reste le même qu'auparavant. Dans le problème de la foi et les œuvres, c'est l'homme tout entier vis-à-vis de Dieu. L'homme tout entier vis-à-vis de Dieu. Je vous rappelle ce texte et ensuite nous pourrons en parler de façon plus précise. Voici le texte de Saint Jacques. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres, s'il ne met pas ça en pratique? La foi peut-elle le sauver du jugement qu'il portera sur lui-même? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « bon, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, eh bien, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est tout à fait morte, dit Saint Jacques. Au contraire, on dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Le mot à mot, ce serait, moi j'ai la foi, mais toi tu as les œuvres. Saint Jacques continue en disant, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, puis ils tremblent. Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il a offert Isaac, son fils, sur l'autel? Et Dieu n'en voulait pas de son fils, évidemment. C'est simplement pour tester la foi d'Abraham, il lui a envoyé un ange pour l'arrêter, évidemment. Les sacrifices humains, Dieu n'en veut pas. Il ne veut pas, de toute façon, des sacrifices. Il le dit dans l'Ancien Testament. Tu sais, ces offrandes, là, d'animaux brûlés. Et Saint Jacques continue en disant, tu le vois, la foi coopérant ses œuvres, et par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite, et ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Et les dernières paroles, si vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seule. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. Aujourd'hui, c'est une mission un peu spéciale, qui tourne autour de Saint-Jacques quand même. C'est un saint. Un des saints les plus intéressants, d'ailleurs, du début de l'Église. On le voit qui part en guerre dans son épître, qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Toute petite épître très intéressante. Il part en guerre contre ceux qui admettraient une foi indépendante des œuvres. Il suffirait de croire. Il dit que cette foi est morte. Il le dit plusieurs fois. Puis, il prend un exemple pour en démontrer l'absurdité. Puis là, il est décidé, il passe immédiatement au point principal de cette discussion. Le refus de soi-même. Et pour bien souligner, il précise, « Si l'un d'entre vous... » Jacques s'adresse pas en effet à n'importe qui. Il s'adresse à ses communautés, c'est-à-dire à celles qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il parle vraiment à du vrai monde. Il parle pas pour parler. Pour... c'est pas un fonctionnaire. L'homme peut bien se compter parmi les croyants. Mais s'il n'aime pas les frères que Dieu lui a donné à aimer, c'est que la foi dont il prétend ou se targue, là, ne l'a en fait pas atteint. Sa foi ne l'a pas atteint. Elle n'a pas agi en lui. Il n'a pas su se laisser toucher par la foi. Quelqu'un qui se contente comme ça de croire, il est malheureux. Il touche pas au bonheur. Il y a Kierkegaard. Oh, j'aimerais bien vous en parler un jour. Søren Kierkegaard. Il fait preuve d'une remarquable sagacité. Il a parfaitement compris, lui, le sens des paroles de Saint-Jacques. Il commente un mot de Ter Stegen. Il écrit, j'en ai déjà parlé, on peut bien connaître à fond le christianisme. Mais ce n'est pas cela qui peut nous émouvoir. Car cette force capable de diriger le ciel et la terre ne touche personne. Quelle différence avec les trois rois mages. Ils n'avaient eu qu'une étoile pour les guider, mais cela suffisait à leur faire continuer leur voyage. Tandis que les docteurs, qui possédaient pourtant une toute autre connaissance, se contentaient de s'asseoir et d'étudier les Écritures, mais cela ne touchait pas. Quelle curieuse comparaison entre les rois mages et les docteurs de l'ancienne loi. C'est chez Kierkegaard. Il y a pourtant dans la foi, me semble, une force agissante, qu'est le Christ lui-même, qui est Dieu lui-même, dans sa grâce. Et Saint-Jacques nous parle, à la fin de sa lettre, du grand pouvoir que peut apporter une prière fervente. Mais qui ne sait pas sublimer sa foi l'a fait mourir. Non pas que sa foi soit mauvaise, par opposition à la vraie foi, mais elle est morte, alors qu'elle devrait vivre. Et la notion de foi, chez Jacques, rejoint donc tout à fait celle de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par essence même, la foi est une attitude de communication avec Dieu et avec le prochain. Elle doit réagir sur les autres. On trouve ça dans l'Ancien Testament. N'est-elle pas issue d'un acte ou d'une attitude de Dieu lui-même? L'exemple d'Abraham le montre bien, il le cite Abraham, je vous l'ai lu tout à l'heure, avec son sacrifice de son fils Isaac. La réponse du patriarche Abraham à l'appel de Dieu, ça trace définitivement sa route. Il fait ce que Dieu lui demande. Il quitte les siens pour une destination inconnue. Et quand Dieu lui dit « Pars, va !» Il gravit le douloureux sentier du pays de Moria. En un mot, il croit. Il croit. C'est bien là le sens du chapitre 22 de la Genèse, tout début de la Bible. « Abraham partit, dit le texte. Il part, il part. » Il faut toujours partir, nous sommes toujours en démarche, il faut aller vers Dieu. Vers celui qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, il faut faire cette démarche et tout balayer ce qui est de l'égoïsme et de la bêtise en nous. Tout ficher ça dehors pour laisser la place à la douceur de Dieu. Il prit la route, il marcha. C'est cette démarche qu'il faut faire. C'est bon que les pèlerinages existent encore aujourd'hui, hein? C'est la grande symbolique, mais le grand pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, j'aimerais donc faire ça, mais il est trop tard. J'aurais dû faire ça quand j'étais plus jeune. Et cette succession de verbes, il prit la route, il marcha, il est parti, dans la Genèse, au chapitre 22, tous ces verbes montrent que son attitude, acte et parole, n'est qu'obéissance à Dieu chez Abraham. Puis en retour, Dieu accorde à Abraham sa justification. C'est bien dit dans Genèse chapitre 15, Abraham crut en Yahvé qui le lui compta comme justice. C'est-à-dire que Dieu proclame que sa foi, son obéissance à l'appel divin est la seule vraie manifestation de la piété. C'est ça la manifestation de la piété. Abraham n'accomplit sa foi que lorsque, par un immense effort de domination sur lui-même, il fait à Dieu l'offrande de son fils bien-aimé, et en offrant Isaac, c'est lui-même qui l'offre aussi. C'est la plus grande symbolique par rapport à un père et un fils qui nous rapproche du sacrifice de l'Eucharistie, où sur l'autel est le Fils éternel du Père, auquel nous communions, c'est la fusion que nous voulons, nous cherchons à permettre à Dieu d'opérer avec notre creux de notre âme, pour qu'ainsi, unis avec Jésus, nous puissions être offerts par toute l'Église à Dieu notre Père dans l'unité de l'Esprit-Saint. Ainsi, le croyant est-il bien celui qui sait garder les mains ouvertes, non seulement pour son prochain, mais aussi et surtout pour son Dieu? C'est justement parce qu'il ne s'approche, c'est-à-dire qu'il ne s'accroche à rien, qu'il obtiendra tout. C'est quand on s'accroche à rien qu'on obtient tout. Hein? C'est un des mystères de notre foi, où on, dans la pauvreté, Dieu surgit. Dans la parabole des mines, Saint-Luc chapitre 19, ou la parabole des talents, Saint Matthieu, chapitre 25. Le serviteur, qui n'a reçu qu'une pièce d'argent, la garde avaricieusement, déposée dans un linge, là, caché, sans même tenter de la faire fructifier, puis alors courroucée, le maître la lui retire, si bien qu'au jour du jugement, il la trouvera les mains vides. Et la raison de cette sévérité? C'est le mauvais serviteur n'a pas eu confiance en son maître, il n'a pas cru en Dieu, et il n'a rien fait. Il est contenté de croire en son maître. Remarquons bien, comme nous l'ai déjà pu le faire dans d'autres émissions, que Jacques ne s'en prend pas ici aux incroyants. J'ai jamais voulu m'en prendre aux incroyants. Mais à ceux qui caricaturent le christianisme en général, et la foi en particulier, ça devient un peu pénible pour nous qui aimons tant l'Église. Sa position apparaît d'ailleurs très nettement à Saint-Jacques. Mais on comprend pas toujours ce qu'il dit. C'est pas facile toujours. La foi doit s'accomplir. La foi, pour justifier l'homme, ne doit rien garder par devers elle. Elle ne doit pas non plus rester figée. Mais au contraire, elle doit répondre à l'appel toujours renouvelé de Dieu, en même temps que celui des œuvres. Et si surprenant soit-il en apparence, oui, toujours. Et ne pensons pas que dans les monastères, il n'y a pas d'œuvres qui sont accomplies, au contraire. On l'a vu avec la vie de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, que je vous ai abordée dans 5-6 émissions pour essayer de la bien comprendre, elle qui n'a rien fait. Quand elle est morte, on disait, qu'est-ce qu'on va raconter d'elle? Elle n'a rien fait. Mais elle a tout fait. Tout fait. Elle s'occupait avec une minutie incroyable des moindres détails dans ses œuvres petites qu'elle avait à faire. Il faut dire qu'elle a déjà été maîtresse des novices à 22-23 ans, c'est incroyable. Mais elle a été aussi accompagnatrice d'une vieille sœur désagréable qui souffrait de mauvais caractère. Pour pas lui en vouloir, et Sainte Thérèse lui en voulait pas. Elle l'aidait. Sauver la foi, elle ne doit pas douter un seul instant que les deux appels qui nous sont faits, de Dieu et du prochain, pourraient être bien différents, n'en viennent pas moins d'une seule et même source, c'est-à-dire de celui qu'on appelle l'unique, avec un U majuscule, et Jacques insiste sur ce point, c'est-à-dire du Dieu parfait, du Père très bon qui, là-haut, c'est une façon d'exprimer. Il est dans l'invisible, il est là-haut, et nous sommes en lui, puis il est en nous. Ce là-haut est tout près, notre Père qui est aux cieux, nous sommes dans le ciel, et le ciel est en nous. Faut donc faire comprendre ça aux enfants, que nous sommes dans le ciel, que le ciel est en nous, c'est pas loin. Nous sommes dedans, mais nos yeux ne voient rien, mais notre foi nous l'indique. Notre ange n'a pas quitté le ciel pour être près de nous, cet ange gardien. Nos parents morts, nos enfants morts, sont tout près de nous, ils nous conseillent constamment, ils nous soufflent des paroles, ils nous soutiennent. Dieu nous soutient. Marie est toujours là, pour chacun de nous. Elle a une puissance incroyable de présence, bien qu'elle ne soit pas une déesse, évidemment. Tout ça est bien mystérieux. Cette foi, l'homme ne peut l'accomplir que s'il met tout son être. Il faut y mettre tout son être. C'est là qu'est le bonheur. On le voit bien chez les saints, comme je souhaiterais faire ça avant de mourir. C'est tellement beau quand on les voit vivre. Et Saint Jacques a vécu comme ça. Vous avez vu comment il est mort, jeté en bas du temple, battu, tué, par avoir été fidèle à celui qu'on appelle dans les textes son frère, Jésus, en fait son cousin, son parent. En vivant sa foi, c'est-à-dire en acceptant d'entreprendre une œuvre dont on n'entrevoit pas l'issue, nous pourrons alors nous dégager des ténèbres extérieures et de croire que nous sommes dans un tunnel noir. Nous sommes dans la lumière, nous sommes dans le Christ qui est la lumière. Mais Christ est en nous, il est la lumière. À défaut de quoi, sa foi n'est que vide et stérile, celui qui ne voit pas ça et qui ne vit pas ça. C'est tragique, car ce qui nous est donné est d'une richesse telle, car après avoir ainsi, avec le concours de l'exemple du patriarche Abraham, laissé le dernier mot à Dieu lui-même, Saint Jacques, insiste une dernière fois sur la gravité du sujet. Il le dit, oui, il s'agit bien là d'une question de vie ou de mort, dit-il. Un corps à qui manquerait la force vitale nécessaire au mouvement de ses membres serait mort. Or, la foi est la force motrice universelle, et c'est à quoi on la peut reconnaître. La vie est le signe distinctif de la foi. Être vivant, nous sommes des gens debout, des hommes et des femmes debout. Et pour que nos enfants aient la foi, il faut qu'ils soient debout. Et qu'ils aillent là où Dieu les envoie, là où Dieu nous envoie. C'est ce que ne sait pas discerner les gens qui font des analyses et qui perdent le chemin et la route et qui veulent séparer la foi et les œuvres. La foi est effectivement, sans les œuvres, une chose étrange. Autant dire, encore que Saint Jacques n'aille pas ici jusqu'au bout de sa pensée, que tous ses actes restent en marge de sa foi. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ces gens la croient, certes, mais avec une passivité telle que leur foi en est morte. C'est une attitude préjudiciable, tant à ces gens-là qu'à leurs frères, qu'à nous tous. Car elle ne peut rien apporter, cette foi morte, si dans le présent, ni dans l'éternité, rien si ce n'est la mort. Et c'est ce qui tue souvent des portions de nos vies, des portions de nos paroisses, de nos familles, des portions de nos pays, des portions de notre très chère Église. On peut dire en somme au total, que le texte que je vous ai lu tout à l'heure de Saint-Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26, tout comme d'ailleurs l'ensemble de toute cette belle lettre, cette belle épître de Saint-Jacques, c'est un appel à la charité. Mais on s'est souvent demandé comment Saint-Jacques en était venu à utiliser pour lancer cet appel les mots « foi » et « œuvre », puis « justification », puis « foi seule ». Ces quatre vocables, si on peut dire, font penser à Saint-Paul, inévitablement. Il n'est donc pas exclu, comme je vous ai laissé entendre, que Jacques ait eu dans la communauté des espèces de gens qui partageaient ses idées, disons des espions, si vous voulez, pour lui rapporter ces mots-clés de la théologie de Saint-Paul. Et la plupart des auteurs en ont profité pour joindre à leurs commentaires de l'épître de Saint-Jacques un parallèle entre Saint-Jacques et Saint-Paul, évidemment. Parce que Saint-Paul parle de ça aussi. C'est une entreprise, d'ailleurs, justifiée, car chacun des deux apôtres couronne ses développements sur la foi et les œuvres par l'exemple, c'est curieux, hein, d'Abraham. On le trouve d'ailleurs dans l'épître aux Romains, chapitre 3, puis chapitre 4. Mais ni l'un ni l'autre ne donne cependant de définition de la foi. S'attache plutôt à établir les rapports de la foi puis des œuvres. Et c'est là qu'est le problème, c'est que chez l'un, la foi, c'est dans la tradition juive, et l'autre, c'est une foi qui adhère à Jésus-Christ et qui est pleine de Jésus-Christ et qui est pleine de cette action que Jésus-Christ inévitablement engendre au creux de celui qui croit vraiment à Jésus-Christ. C'est précisément autour de ce point-là que depuis la réforme protestante, vers donc 1520 quelque chose, la discussion s'est surtout élevée. Hein? Il y a des commentateurs qui ont en effet cru discerner que saint Paul en tenait pour la foi seule, tandis que Jacques prônait le contraire. Alors, il y a eu des disputes là-dessus, presque interminables. Prenons l'exemple de Walker, ou Walker, qui a écrit un article ostentatoire pour soutenir que Saint-Jacques restait le catholique traditionnel, tandis que Saint-Paul serait plutôt un réformiste dans le genre de Luther. Mais voyons. C'est une étrange... façon très étrange. On abuse, me semble, des textes. Car chez Paul et Saint-Jacques, la foi du chrétien n'est en fait pas différente de celle d'Abraham. J'y insiste, c'est la même foi. Il est le père des croyants. De même qu'Abraham espérait contre toute espérance et croyait à la vie quand ses yeux ne voyaient que la mort. De même, est-ce à la résurrection que pense le chrétien en voyant le Christ supplicié sur la croix? Hein? Il y a des gens qui me demandent comment ça se fait, j'ai une croix dans toutes mes pièces. Mais c'est que quand je le vois ressuscité. Je sais que c'est la route de la résurrection. Peu m'importe qu'il ait l'air d'un mort sur la croix. Peu m'importe. Je sais que dans la douceur de sa mort, offerte avec tant d'amour, il y a toute la résurrection et l'ascension et la vie. Lorsque Jacques parle de la foi seule, c'est uniquement à ceux qui sont assez particuliers, qui sont des insensés à ses yeux, qui voudraient se soustraire en même temps à l'amour et au commandement de Dieu. Et son idée reste bien qu'il faut vivre sa foi, vivre sa foi. Une idée que l'on retrouve inchangée dans la pensée de saint Paul. On le retrouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 6, que seul compte la foi opérant par la charité. Il le dit bien, saint Paul. Or, il dit finalement la même chose quand on lui pense. Quand les protestants nous disent que la foi seule sauve, je comprends ce qu'ils veulent dire aussi, mais c'est dangereux de dire ça. Il faut que les gens comprennent. Il faut faire attention. Saint Paul le dit aussi dans la première Épître aux Colossiens, au chapitre 13, que sans la charité, la foi ne serait rien. Puis, il en parle aussi dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 1, de l'activité de la foi, dit-il, au sens positif du terme. Alors, si l'on admet que l'épître de Jacques est postérieure aux écrits de Paul, il y en a qui disent ça, mais elle est postérieure une petite partie, on peut raisonnablement penser que les lecteurs avaient entre-temps oublié les développements de saint Paul sur l'exemple d'Abraham et par voie de conséquence l'interprétation donnée sur la base de l'Ancien Testament de la véritable foi. Soyons toujours convaincus que dans l'Ancien Testament, il y a de grandes richesses qui nous nourrissent et qui appuient, qui soutiennent la grande révélation qui nous est faite en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, aujourd'hui, dans l'Évangile du jour, fait cette multiplication des pains que l'on a souvent considéré comme une façon d'entrevoir l'Eucharistie. Il est dit à la fin de l'Évangile, à la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, oui, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui le roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Il ne voulait pas devenir un roi politique terrestre, mais le roi de nos cœurs tout doucement, dans l'humilité, dans la quasi-discrétion incroyable qui se révèle dans la grandeur des saints, la grandeur des hommes comme Saint Jacques, qui sont allés jusqu'au bout.